RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire et puis le consultant juridique qui vient de Dunkerque. C'est Antoine Dierce, on a parlé dans la première, là tout à l'heure dans le on s'en fout pas, de comment draguer avec l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'écouter en podcast les méthodes de drague de nos GG, de nos grandes gueules. Est-ce qu'elles aiment draguer ou est-ce qu'elles aiment être draguées? Ça, vous retrouvez ça sur l'appli RMC, sur les podcasts ou sur le site internet rmc.fr et vous allez dans l'onglet les GG, le podcast, c'est la session de rattrapage des grandes gueules. Je vous donne le menu de la deuxième heure des GG. De quoi va-t-on parler? On va parler de cette bataille entre Bali Bagayoko, soutenu par la France Insoumise, vous savez, autour de son prétendu emploi fictif. Ça se bagarre sur les réseaux sociaux. La France Insoumise soutient à fond Bali Bagayoko, désingue tous ceux qui le critiquent aujourd'hui, qui s'interrogent. Et alors, ça prend une tournure supplémentaire parce que le journaliste du Canard Enchaîné, qui apparemment est en charge de l'enquête, c'est Frédéric Aziza. Frédéric Aziza, qui est journaliste à Radio J, qui n'a de cesse de qualifier aussi la France Insoumise d'antisémite. Donc, pour la France Insoumise, ça y est, on voit d'où viennent les coups, etc. Donc, est-ce que la France Insoumise en fait trop ou pas? Ou est-ce que c'est de l'acharnement contre eux? On en parlera tout à l'heure à 11h-20. On reviendra aussi sur ces médecins qui travaillaient à l'hôpital, à qui on a donné des surprimes pour pouvoir rester, sauf que la loi l'interdit. Et du coup, le fisc aujourd'hui leur demande de rembourser leurs surprimes. Ça peut monter jusqu'à 80 000 euros. Et ce sont les médecins notamment de l'hôpital, du grand hôpital de l'Est francilien qui sont concernés. C'est une histoire, je vous jure, c'est le UBU, l'administration dans et la loi française dans sa splendeur. Peut-être que vous êtes médecin, vous êtes concerné. Eh bien, vous venez en parler avec nous tout à l'heure au 32-16 à 10h20. D'abord, on va regarder un peu ce qui se passe du côté des permis de construire pour les piscines. Alors c'est vrai que face aux grandes chaleurs, certains qui ont un petit terrain ou un peu plus d'espace se disent, là avec la canicule qui va arriver, bah c'est quand même bien que je puisse faire un plouf, parce que le tuyau d'arrosage, c'est bien. Si j'ai la mer à quelques encablures, à quelques kilomètres, c'est très bien. Mais si je peux rester chez moi et le soir me détendre dans ma piscine, c'est encore mieux. Sauf que face à ces épisodes de sécheresse qui s'enchaînent, les règles d'urbanisme ont évolué et désormais les mairies peuvent refuser ou limiter certains permis de construire afin de préserver les ressources en eau qui sont disponibles. Alors, du coup, dans des départements comme les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Vaucluse, les communes disent aujourd'hui non, quasiment tout le temps, au permis de construire. Alors, dans ces cas-là, vous savez ce qu'elles disent? Elles disent, bah, faites plutôt des terrasses ombragées ou plantez des arbres, mettez de la végétation. Moi, on découvre que d'année en année, la France est vraiment championne d'Europe de la piscine et on est même dans le top 3 des pays qui ont le plus de piscines au monde. 65% des Français estiment qu'avoir l'accès à une piscine municipale à proximité de leur domicile est important, sauf que des piscines municipales, bah malheureusement, il n'y en a pas partout et qu'aujourd'hui, il y a plutôt une appétence des Français à vouloir une piscine. Alors, est-ce que face aux canicules et aux sécheresses, durcir les règles pour obtenir une piscine, construire une piscine, ça vous paraît normal ou pas, ou c'est une atteinte à la liberté? 32-16 pour en parler quelques minutes avec les jeux, avec les grands gueules, Didier Giraud.
Écoute, moi je pense qu'il y a quand même un sujet à l'avenir sur le partage de l'eau. Et dans le partage de l'eau, il y a plusieurs sujets. Que aujourd'hui des municipalités refusent des permis de construire pour des piscines en l'état, moi je veux bien l'entendre. Moi, je veux bien l'entendre. Par contre, moi, je le conditionnerais à ce que des maisons neuves aient des systèmes de récupération d'eau, des systèmes de séparation des eaux usées. Enfin, on est le seul pays au monde où on fout de l'eau potable sur notre bouse le matin quand on va aux toilettes, quoi. On est le seul pays au monde. Alors, derrière ça, interdire les gens d'avoir une piscine, tu vois, je trouve qu'on n'attaque pas le problème par le bon bout, quoi. Moi, je dirais aujourd'hui, OK, vous voulez une piscine, sauf que il vous faut une séparation des réseaux d'eau, vous mettez dans la piscine des eaux de pluie collectées que vous traitez, et auquel cas on vous accorde votre permis de construire. Et aussi s'imposer à eux-mêmes que dans les bâtiments communaux, on ait des séparations d'eau, quoi. Enfin, moi, j'ai vu quelques exemples dans des, alors c'est très simple à faire dans des immeubles, où tu collectes tout ce qui est douche, lessive, vaisselle, enfin un bac, machin, tu le fais aller dans un simple filtre avec du charbon et tu rebalances ça dans les toilettes, quoi. Et ce genre de truc, il y a pas une seule municipalité qui s'impose ce genre de règles. Par contre, refuser des permis de construire, c'est facile. Et après, derrière ça, ce que je peux comprendre aussi, je regardais par exemple le Tour de France féminin qui arrivait à Nice, sur les hauteurs de Nice, vers le Col d'Aise, dimanche après-midi. À un moment donné, les piscines, elles se touchent toutes, quoi. Elles se touchent toutes. Oui, ça, et tu te dis, quel volume de flotte, quoi. Hein.
Ça s'est fait au fil des années.
Non, mais
une fois que ta piscine est remplie, ouais, voilà. En général, t'as pas besoin
de la refaire. Dans les coins où ça brûle, les pompiers sont contents de les trouver aussi, les piscines, pour éteindre l'incendie. Des
Joël Dagosséry.
Bah, premièrement, moi, je suis de la génération fin 70, années 80, où la piscine, et je pense que ça l'est encore, était le rêve. Je pense de beaucoup de gens, et presque un symbole de réussite d'avoir une piscine. Et ça l'est encore pour moi, c'est-à-dire que mon petit rêve, c'est d'avoir une maison avec une piscine. Voilà, j'en ai pas.
Tu l'as encore aujourd'hui. Et dans le sud, tant qu'à faire.
Voilà, et dans le sud, tant qu'à
faire. Même si tu n'es pas loin de la mer.
Exactement.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le sud, ils vont plus se baigner parce que l'eau, elle est trop chaude. Hein.
Donc, qu'on me donne la liste de ces communes qui interdisent des piscines, que je n'y aille pas.
C'est liberticide.
C'est complètement liberticide, et d'autant plus que quand j'ai fait mes petites recherches sur le sujet, notamment sur la gestion de l'eau de plusieurs communes en France, on a quand même énormément de communes où il y a 30% de perte d'eau due à la vétusté des canalisations. Voilà, il y a des communes où c'est 1 litre sur 2 qui se perdent dans le sol avant d'arriver dans nos robinets. Donc, avant de venir dire que oui, Coco, tu gaspilles de l'eau avec ta piscine, d'ailleurs que tu remplis qu'une fois l'année, etc. J'aimerais bien savoir dans la ville si les canalisations sont en état, si effectivement toute l'eau, ou en tout cas au moins 90% de l'eau qui circule est gardée, ou alors est-ce qu'elle fuit dans le sol. Donc je veux bien qu'on vienne à chaque fois dire aux citoyens que t'as moins de droits,
c'est pas un caprice, une piscine, etc.
Non,
c'est pas un caprice,
non.
Parce que c'est liberticide, c'est une chose,
mais quand
tu mets une piscine gonflable dans ton jardin, tu peux dire je la mets l'été, tu vois, le temps de l'été, le temps de me rafraîchir, je change l'eau, piscine hors sol, etc.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir des plaisirs dans ce pays? Est-ce qu'on doit tout rationaliser? Est-ce qu'on doit juste boire du pain et de l'eau et de la bouillie de mil? Est-ce que c'est notre seule
finalement,
perspective, parce que tout est tout
quelque
devient
chose que tu utilises non, mais de moins dans l'année.
Un caprice,
qui te fait rêver,
tout
quoi,
devient
voilà.
Un caprice, tout devient riche. Si t'as la moindre, si t'as une nounou parce que tu bosses jusqu'à 20h, t'es riche. Enfin, je veux dire,
une bagnole.
Tout devient. Oui,
t'as une bagnole thermique.
T'es riche. Mais je veux dire, tout devient. Tu manges 3 fois par jour. Oh waouh. Oh, t'es riche. Non mais faut arrêter. On a le droit d'avoir des plaisirs. On a le droit de se dire, je vais bosser très dur parce que je veux une piscine dans mon petit jardin, même si c'est pas une grosse villa, c'est un petit pavillon, souvent d'ailleurs, c'est un pavillon. Donc, faut arrêter. Non, moi, je demande aux États, aux communes, de regarder leur propre gaspillage d'eau, de renouveler les canalisations. J'ai regardé, c'est 0,6% par an de renouvellement. Ouais. C'est pas assez quand t'as des fuites de 40% d'eau dans ta ville. Donc, non, commencez par vous avant de nous toucher.
Non, puis la récupération, ou
la récupération.
Antoine Guerre, entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'ajoute un élément au débat, c'est que de plus en plus de collectivités font des tarifications différenciées sur les premiers mètres cubes d'eau et sur les suivants. Eh ben moi je pense que ça c'est une bonne solution. Les premiers mètres cubes d'eau qui sont vitaux pour se nourrir, enfin pour boire, pour se laver, etc. Cela ils coûtent pas cher. En revanche, le mètre cube au-delà de je sais pas combien de mètres cubes qui sert à remplir une piscine, il pourrait peut-être coûter un peu plus cher. Ne serait-ce que pour que ça serve à financer les travaux, etc. Donc moi je suis très libéral. On doit pouvoir continuer à avoir une piscine. En revanche, peut-être que l'eau doit pas être au même prix selon son utilisation.
Et c'est quoi? C'est de l'idéologie? C'est de l'application bête et méchante par rapport au risque climatique? Tu vois, parce que
quand tu regardes France, qui applique des normes aux autres, mais qui se les applique pas à soi-même, quoi, quand même.
Parce que quand tu regardes les départements, tu vois, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, et que tu regardes ensuite les municipalités...
C'est des endroits où il y en a beaucoup déjà, hein, quand même.
Bien sûr. Mais ce sont des départements qui vivent aussi du tourisme, qui vivent de l'immobilier, qui vivent aussi, tu sais, de comme le disait Joël, de cette envie de venir habiter chez vous, regarder Belleville avec une piscine. Il y a des droits de mutation qui sont pris aussi par les municipalités, tu vois, sur les maisons, les transactions, sur les échanges. Et puis il y a un commerce aussi. Oui. Tu vois, il y a tout un secteur d'activité.
Les piscinistes,
ça les fait vivre. C'est de l'entretien toute l'année. Ouais, la construction,
les espaces verts,
les architectes, etc. Tu vois, donc si tu commences derrière à interdire au fil des années, tu vas mettre à mal aussi tout un secteur d'activité, quoi.
Mais parce que l'interdiction en France, c'est très facile.
C'est le plus facile.
Mais oui, ça va beaucoup plus vite que de penser une stratégie à long terme, etc. Donc tout de suite, on interdit. Peut-être que je comprends, dans ces communes, ils sont vraiment à l'os et qu'ils se disent, ouais, là, il faut stopper. Ça peut être un moratoire à la rigueur. Tu vois, tu te dis, on fait un petit moratoire de quelques années, mais tu vois, une interdiction comme ça.
Non, mais le lier à la récupération.
Ou alors, ouais, enfin, tu remplis d'autres.
Voilà.
Tu comprends pas. Si tu remplis d'autres,
lie-le au fait que ta piscine, elle
avec
soit verteuse.
Avec une tarification différenciée. Enfin, tu vois, on peut penser quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une interdiction sèche, quoi.
Bah oui. On a Hervé qui est avec nous, qui est du côté de la Sarthe. Il est commercial. Bonjour, Hervé.
Bonjour.
Que pensez-vous alors de ces départements, de ces communes qui refusent de plus en plus les permis de construire des piscines? Alors, au nom de la sobriété hydrique, qu'est-ce que vous en dites?
En termes de sobriété, moi, il y a cinq ans, j'ai fait creuser une piscine, c'est à peu près 30 mètres cubes. Dans le quartier, je suis le seul à en avoir une. En moyenne, je remets 4 à 5 mètres cubes d'eau par an pour faire le niveau. Par contre, dans mon quartier, au printemps, arrivé au mois de mai, il y a plein de piscines, des tubulaires autoportés qui font entre 10 et 15 mètres cubes qui fleurissent.
Qu'est-ce que c'est ça?
Et qui sont vidées. Oui, voilà, autoportées.
Et qui sont vidées tous les ans, ouais.
Voilà. Donc, j'ai pas l'impression de gâcher de l'eau, moi, par rapport aux autres personnes, quoi, dans le quartier. Au contraire, qu'est-ce que c'est, quoi?
Une piscine
autoportée.
Un peu plus grosse qu'une gonflable.
D'accord. Ou une piscine.
Voilà, avec des tubes métalliques, ça monte à 10, 15 mètres cubes, voire 16 même pour certaines.
D'accord. Donc, vous dites, les gaspilleurs sont eux, quoi, en fait, c'est ça?
Je vais pas pointer de gaspilleurs, mais c'est surtout dire, voilà, les piscines creusées, ça gâche de l'eau. Pas forcément. Et puis, dans certaines régions, c'est vrai qu'on l'a vu là, ça peut aussi servir de réserve d'eau pour les pompiers.
Exactement.
Et là, cette année, j'imagine que vous étiez bien content de l'avoir, votre piscine, là, Hervé.
Tout à fait.
Vous faites pas des jaloux?
Non, j'ai pas l'impression.
On est en France.
Non.
Par
contre, c'est vrai que quand mes filles étaient au lycée, le lycée était à 200 mètres de la maison, j'avoue que, arrivé le mois de mai, je devenais un peu l'annexe du lycée.
Ouais. C'était sympa, vous étiez.
C'est des bons moments.
Vous étiez le papa qu'il fallait choyer, gâter pour que tout le monde puisse venir piquer une tête, quoi, en fait. C'est ça.
Voilà, tout à fait.
Merci Hervé d'avoir été avec nous. On va écouter Jean qui est du côté de l'Isère. Ah bah tiens, on dit piscinier ou pisciniste? Bonjour Jean.
Bonjour, on dit comme on veut. Bonjour à tous.
D'accord.
On dit comme on veut. Comme disait mon père, pourvu qu'on ne nous appelle pas trop tard pour manger, on peut nous
Alors,
appeler comme on veut.
Que pensez-vous de ces départements ou de ces communes qui interdisent la construction des piscines? Alors dites-moi.
Moi, je suis un petit peu d'avis du monsieur qui vient d'intervenir juste avant, là. C'est que vous avez des piscines hors sol. Alors, j'ai rien contre la piscine hors sol, hein, mais nous, on n'en fait pas. Mais quand vous achetez une piscine hors sol, très souvent, la majeure partie du temps, c'est avec une filtration très légère, voire même pas une filtration, on appelle plus ça un épurateur d'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment pas efficace. Dans le temps, les gens sont obligés de vider la piscine, même plusieurs fois dans la saison, ça arrive très souvent. Parce que la filtration ne suit pas. Et comme la filtration, c'est le cœur de la piscine, on a beau mettre des produits et régler notre pH correctement, ça ne suffit pas quand on a des canicules comme on a en ce moment. Ce qui fait qu'on balance de l'eau à tout va. Alors, je ne veux pas dire que les gens qui achètent ça sont des gaspilleurs, c'est qu'ils font comme ils peuvent, ils veulent faire plaisir à leurs enfants, et c'est normal qu'ils veuillent avoir eux aussi leur piscine avec un budget peut-être inférieur. Quand on est sur des piscines enterrées, on va les couvrir. En principe, nous, chez nous, en Isère, comme il fait au printemps et l'automne assez frais, la nuit, on est obligé de les couvrir, sinon on aura que de l'eau froide. Et le fait de couvrir, ça coupe l'évaporation énormément. Et puis, on va vider la piscine, en principe, une fois tous les 5 ans environ, de moyenne.
Ouais. Donc il faut quand même la vider. Il faut la vider quand
ça
même.
Ça dépend comment on traite. Quand on traite au chlore, on arrive à avoir des taux de stabilisant qui montent. Mais dans le chlore, vous avez du stabilisant et il monte et il faut vider après.
Ce qui est intéressant, c'est que Joël disait toujours, ça reste un rêve, une piscine. Et ça, vous le constatez, ça reste toujours un rêve pour les gens.
Là, en ce moment, oui. Nous, on travaille vraiment par période. L'année dernière, entre septembre et décembre, on s'est fait démonter de demandes et on a vendu tous nos chantiers 2026 quasiment. Et là, depuis le mois de mai-juin, qui fait super chaud avec la canicule, j'ai énormément de demandes. Là, ça s'est calmé parce qu'on arrive au mois d'août que les gens sont partis en vacances, mais je me retrouve environ entre 12 et 14 demandes par semaine de projets piscine.
Donc, c'est un secteur d'activité qui se porte plutôt pas mal, quoi, le vôtre.
Oui, alors, ça fonctionne, mais c'est compliqué parce que les gens ils demandent beaucoup de devis. Ça attend. La tendance, c'est ça. Hein. C'est une tendance générale du bâtiment. Les gens consultent, ils ont éventuellement le budget, mais ils attendent. Parce qu'ils sont inquiets, ils ont besoin d'être rassurés, etc. Et les achats se font avec une enveloppe inférieure à ce qu'on avait il y a deux ans en arrière. Quoi. Les piscines sont réduites au niveau taille.
C'est-à-dire, elles font combien aujourd'hui?
Moi, quand j'ai commencé il y a 23 ans, on faisait beaucoup de piscines de 5 par 10, 4,5 par 9, 8 par 4 était la piscine, on va dire, familiale, la plus vendue en France, je pense. Et aujourd'hui, on est sur pas mal de mini-piscines, moins de 10 mètres carrés. Ouais. Et puis après, c'est sinon...
C'est bassin, quoi, en fait, c'est ça. C'est
des petits bassins.
Mais parce qu'en plus, sinon, il faut demander un permis de construire, c'est ça. Sinon, vous pouvez faire une déclaration préalable. Enfin, c'est comme ça que ça marche,
Ouais, c'est une autorisation de travaux, une déclaration préalable. Et après, je veux juste vous donner une info, si ça vous intéresse, sur le traitement de l'eau et la gestion des rejets d'eau. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous, dans notre région, d'une commune à une autre, d'une communauté de communes à une autre, avant, c'était toujours rejet des lavages de filtres quand on était sur de la filtration à sable dans un puits perdu. Aujourd'hui, vous avez des réseaux égouts, donc on nous dit les rejets d'eau sale, c'est égout, les rejets d'eau propre, c'est-à-dire le trop-plein de la piscine, ça sera plus perdu. Donc, ce qui est logique. Hein. Sauf que il y a tout à l'heure quelqu'un qui a dit qu'il fallait faire payer plus cher. Alors, il faut savoir un truc, c'est que quand vous remplissez votre piscine, vous payez le retraitement de l'eau.
Ouais, l'assainissement.
Sauf que l'assainissement. Sauf que quand vous videz votre piscine ou que vous faites des lavages de filtres et que vous l'envoyez dans un puits perdu, parce que il y a encore au moins 70 ou 80% des communes où on est sur un puits perdu. C'est-à-dire qu'on rejette pas dans le réseau. Mais on paye l'assainissement quand même. Vous remplissez votre piscine 80 mètres cubes ou 60 mètres cubes, 40 mètres cubes. C'est pareil, il y aura toujours un rejet dans un puits perdu. Et par contre, on paye l'assainissement pour rien.
Okay. C'était une des questions que j'allais vous poser. Les piscines très chlorées, etc., le chlore part dans le puits perdu malgré tout?
Oui, alors très chloré, en principe, oui, ça a toujours été comme
c'est
ça.
C'est fini ça, aujourd'hui, les piscines très chlorées, comme tu avais avant, qui te faisaient mal aux yeux quand tu as ça.
Quand elle est allée. Après, au niveau du chlore, chacun gère sa piscine. Là, on parle de particuliers. Hein,
donc, bien sûr.
Moi, je leur dis toujours, ne donnez pas à manger à votre skimmer, il faut faire des analyses d'eau. Il y a toujours des gens qui vont mettre des galets de chlore dès que ça a fondu, en remettre un dans le skimmer pour pas... dans un doseur flottant pour alimenter la piscine, mais c'est important de faire des analyses et puis de pas trop charger. Après, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, hein, faut pas croire. Hein. Vous avez dans certaines communes maintenant, ils le demandent. Vous avez des filtres à éléments. Un filtre à éléments, c'est des filtres qui ont un peu la forme d'un filtre à sable, mais on va plus avoir de rejet, c'est-à-dire qu'on va avoir dedans des cartouches.
On va avoir et on change que les cartouches dedans,
et on va sortir les cartouches et les laver. Donc on les lave au jet d'eau. Donc c'est beaucoup plus économique
et plus sain, quoi. Et Jean, je vous remercie.
Comme le reste, c'est des secteurs qui progressent.
Toutes ces précisions que vous nous avez apportées, je m'interroge, tu vois, je me dis si jamais, on verra, en fonction de qui arrive au pouvoir après les élections de 2027. Si jamais c'est un gouvernement, tu vois, de gauche un peu
pro-piscine ou anti-piscine.
Mais tu rigoles. Mais je suis sûr que on sera foutu tu vois, d'envisager une taxe à ce moment-là, sur les piscines. Comme tu disais, quand il y a des départements où on en voit plein, on va se dire, écoutez, on va faire une taxe piscine qui permettra ensuite d'abonder un fonds vert, quoi que ce soit. Ah, tu sais, en France, on est champion du monde de la taxe. Toujours faire confiance à une majorité ou à quelqu'un pour t'inventer un impôt ou une taxe qui peut rapporter de l'argent. Jean, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Les villes qui interdisent les permis de construire pour les piscines, elles ont raison. Non, mauvaise idée à 75%. Dans un instant, une histoire française. On va vous raconter justement ce qui se passe avec les primes des médecins qui doivent rendre aujourd'hui parce qu'ils ont des trop perçus. Ça peut monter jusqu'à 80 000 euros.
À l'hôpital, oui.
À l'hôpital.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. C'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui venez discuter avec les grandes gueules, avec Antoine Dierce, ce consultant juridique, avec Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, et Joël Dagosséry, la coach de vie. On va vous raconter l'histoire des médecins du grand hôpital de l'Est francilien. L'histoire des médecins du grand hôpital de l'Est francilien qui doivent rembourser jusqu'à 80 000 euros chacun pour des versements jugés indus par le Trésor public. Réaction d'un des médecins, justement.
J'ai signé un contrat, le travail était fait, et là, on me demande de rembourser sous des prétextes bidons. Je ne suis pas enrichi, je ne suis pas cassus. Moi, les 45 000 euros sont partis chez la Nuno et le loyer. Je serais insolvable, tout ça.
L'histoire est incroyable. Elle est vraiment symptomatique de ce qui se passe ou de ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Et je sais pas si vous êtes médecin, si vous connaissiez cette histoire. Vous venez en parler avec nous au 32-16, même si vous n'êtes pas personnel médical, vous réagissez. En fait, que se passe-t-il? Les professionnels concernés sont pour moitié donc des médecins diplômés hors de l'Union européenne, c'est-à-dire les médecins étrangers, ce que l'on appelle les PADU, et pour l'autre, des praticiens titulaires. C'est ce que dit la direction du Grand Hôpital de l'Est francilien. En fait, ce sont des rémunérations qui ont été jugées irrégulières par le Trésor public parce qu'elles sortent d'un cadre qui avait été fixé par une loi en 2023. En fait, c'est-à-dire qu'on les a surpayés hors grille réglementaire. Exactement. Pourquoi l'hôpital les a surpayés?
Pour les avoir.
C'est le principe de la loi du marché. C'était pour les avoir, pour les garder, parce qu'ils avaient besoin d'avoir ces médecins qui tournaient à plein régime. Et donc, si vous voulez, grosso modo, on les a surpayés. Sauf qu'aujourd'hui, on leur dit, désolé, vous êtes hors du cadre de la prime. Donc, le Trésor public dit, finalement, vous avez perçu des sommes qui sont presque, entre guillemets, au black. Vous n'y avez pas droit. Donc, même si elles ont été déclarées, hors cadre légal. Voilà. Donc, vous devez les rembourser. Et pour certains médecins qui, effectivement, ont beaucoup travaillé, ça peut monter jusqu'à 80 000 euros. Donc, ces médecins qui sont sommés de rembourser leurs primes, est-ce que c'est honteux, oui ou non? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Monsieur Antoine Dierce.
On vit dans un système en France où on adore l'égalité. Tout le monde nous dira il faut que les hôpitaux ce soit pareil partout parce que on doit tous avoir les mêmes soins, et donc de cette idéologie là découle le fait que il y a une fonction publique hospitalière avec des grilles, avec des primes qui sont autorisées, etc. Et là on a un hôpital qui en fait voudrait jouer le jeu du marché, voudrait jouer le jeu du libéralisme, voudrait attirer les meilleurs chez lui. Moi, je dis pas non que les hôpitaux se fassent de la concurrence entre eux pour attirer les meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le système qui est choisi. Le système qui est choisi, c'est une rémunération identique pour tous, partout dans le pays. Et donc, moi, vous savez que je suis libéral, mais je comprends bien qu'on vienne rechercher ces primes. Ça paraît aberrant. Et bien sûr, ils vont faire des recours administratifs pour considérer que c'est la faute de l'administration, etc. Mais soit on maintient le fait que les hôpitaux ce soient tous les mêmes sur tout le territoire, soit on bascule entièrement dans le libéralisme que j'appelle de mes voeux, et chaque établissement peut rédiger des contrats librement. Et on pourrait même faire ça pour les universités. Et on pourrait même faire ça pour les écoles. Et on pourrait même imaginer que chaque établissement ait une politique d'établissement qui lui soit propre et que tel hôpital devienne le meilleur dans tel domaine, etc. Et on pourrait, oui, créer une concurrence saine parmi toutes les institutions publiques. C'est pas le cas aujourd'hui.
Faut voir ce qu'on veut. Ça marche pas. Non, mais... enfin, ton histoire là, ça marche pas si le mec il a un contrat, quoi. Ils ont tous signé des contrats de travail. On vient leur redemander des sous 2 ans après. Moi, si je suis le médecin concerné, j'en ai rien à foutre de la politique française de l'uniformité. J'ai signé avec mon employeur un contrat de travail.
En l'occurrence, je suis pas sûr qu'ils aient des contrats. Il n'y a pas de contrat dans la fonction publique. En fait, ce qu'ils confondent, c'est arrêté de nomination. À mon avis, ils ont signé un arrêté de nomination qui dit vous êtes positionné sur la grille indiciaire. Le trésor public, le comptable public, il a payé ce que l'hôpital lui a dit et après il a regardé et dit il n'y avait pas de base légale pour payer ça. Ça marche comme ça pour tous les fonctionnaires de France. Il y a même des fonctionnaires dans les communes, des fonctionnaires d'État, qui se voient réclamer des primes après coup, parce qu'en réalité, la base légale n'était pas là pour leur verser. C'est soit on bascule dans le privé et on fait effectivement un contrat, soit on maintient ce système public. Moi, je suis pour basculer dans le privé, hein, tu m'as bien compris.
Non, mais ça, d'accord. Mais aujourd'hui, tu nous dis que une commune, un hôpital, une administration n'a pas le droit de faire un contrat de travail.
Non, il n'y a pas de contrat de travail. Non. Ce sont des arrêtés de nomination. Moi, j'ai longtemps été directeur de cabinet. Le maire désigne Antoine Diers, directeur de cabinet. Il sera rémunéré sur la base de l'échelon Intel. Et j'avais...
Donc, tu ne dois pas sortir du cadre de cet échelon. Quoi,
exactement.
Tout simplement.
Exactement.
Donc là, on est dans la légalité, en fait.
Bah oui. Mais rassurez-vous, je suis persuadé que les médecins vont avoir gain de cause.
Quand moi, j'attends 6h, 7h, 8h aux urgences, voilà. Parce que on a un manque de personnel, parce que les hôpitaux, même dans des grands hôpitaux, sont débordés. Ces médecins-là n'ont pas à être occupés dans une bataille administrative avec l'État. Je suis désolée. Ils n'ont pas à être dans des recours. Alors, j'imagine qu'ils auront des avocats ou des choses comme ça, mais peu importe. Je veux dire, leur esprit n'a pas à être mobilisé, leur énergie n'a pas à être mobilisée, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent aux prises avec l'État dans une bataille pour légitimer le fait qu'ils aient été payés par l'administration publique. On parle d'hôpitaux publics, c'est-à-dire que c'est pas un hôpital privé qui s'est trompé dans ses petits contrats, dans ses petits trucs. Non, c'est l'administration publique avec un comptable public qui a validé le versement de ces primes. Et ensuite, tu as l'administration publique qui revient te dire tu vas me rembourser mon coco. Et comme tu veux pas rembourser, parce que forcément, en quelques années, c'est parti dans tes dépenses, dans tes charges, dans tes machins. Eh ben, tu dois engager une bataille judiciaire ou des recours administratifs avec... Non, écoute, c'est trop pour moi, pour mon petit cerveau, je suis désolée. Là, ça déconnecte. C'est trop d'administration publique, trop d'erreurs d'administration publique. Moi, je veux que mon médecin, son énergie soit mobilisée aux soins des malades. Deuxièmement, on a attiré ces médecins parce que nous avons des déserts médicaux en France et même dans les grandes villes. Moi, par exemple, quand je vais dans le 93, c'est un désert médical. Pourtant, on est en urbanisation, c'est pas de la ruralité, etc. Donc, on a des déserts médicaux et donc pour pallier à ces désertifications médicales organisées par l'administration publique,
oui, pour faire des économies.
Exactement, on attire des médecins qu'on dit, écoutez, venez chez nous parce qu'ils sont sollicités.
On va bien vous payer.
Donc, on va bien vous payer, etc. Mais on est où là? C'est un truc de fou.
Ce qui est terrible,
mais ils ont fait une erreur. Ils s'asseyent sur leur erreur. Je suis désolée.
Donc ça veut dire que tous les hôpitaux de France vont pouvoir aller à la course à l'échalote pour attirer.
Pour moi, l'administration publique doit s'asseoir sur son erreur.
Mais c'est ce qui va se passer. En l'occurrence, ils vont faire un recours. L'administration va dire.
C'est encore l'administration. Tu vois, tu vas faire un recours, ça risque de prendre du temps. Mais le système, il va continuer. Il va perdurer. Et s'il le faut, dans un an ou dans deux ans, on aura encore un dossier. Et nous-mêmes, on dira mais c'est pas possible, c'est aberrant, pourquoi ça n'a pas été réglé.
Que des hôpitaux puissent donner des contrats différents aux médecins, mais tu me diras demain non, mais il y a des hôpitaux à deux vitesses parce qu'ils sont mieux payés à Neuilly qu'en Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Faut savoir le monopole.
Antoine, en dehors de ça, on peut quand même analyser ce qu'est l'administration française aujourd'hui.
Et je suis bien d'accord.
Le bureau jaune te donne 4, et le bureau bleu te redemande 2, et ils sécrètent leur propre travail à tourner en rond et à se manger la queue.
J'ai une histoire avec le guichet unique de l'INPI récemment.
Non, mais tu vois, il y a un moment donné, c'est plus possible. Ouais. Et quand on dit il faut que l'État dégraisse le mammouth, ça commence par là, quoi.
Je suis entièrement d'accord. Je vous dis juste.
Qui servent à rien, si ce n'est à faire chier les autres, y compris leurs propres collègues, à un moment donné, on n'en peut plus.
Êtes-vous prêt à basculer sur des contrats publics où on peut payer librement le médecin selon la
maison? Mais non, je veux que l'administration fasse son travail. C'est-à-dire que si c'était hors cadre, à ce moment-là, bah, c'est hors cadre, il les paye pas. Le poids de l'administration dans les hôpitaux publics, je crois que c'est 30 ou 35% en France. Voilà. En Allemagne, c'est 20%. Voilà, c'est 20% en Allemagne. Si tu as une masse salariale de bureaucrates qui représente 30%, c'est pour qu'elle fasse un boulot exceptionnel, pas pour faire de la merde, pardon. Oui. Donc, je suis désolée. Donc, ils s'asseyent sur les primes. Ils font quelque chose pour pas que ça se reproduise s'ils veulent, mais sur ces primes-là, ils s'asseyent. Ces médecins n'ont pas à rentrer dans une bataille pour ne pas rembourser ces primes. Désolée.
Ils s'assoient.
Ouais. Ils oublient quoi, ouais.
Ils s'assoient. Ah, c'est pas ils s'asseyent.
Ils s'assoient sur
leur remboursement.
Ils s'assoient. On a Nicolas. Tiens, je vous laisse réfléchir le temps de prendre. Tiens, vérifie. Tiens, demande à l'IA pendant
que. Oui, peut-être que c'est qu'ils s'asseyent, non?
Oh, je sais pas. Ils s'assoient. Ça, c'est quand t'es en colère, ils s'asseyent. Et quand t'es calme, ils s'assoient. Nicolas, qui est avec nous, infirmier libéral. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue, Nicolas. Que pensez-vous de cette histoire, alors?
Écoutez, il n'y a rien qui vous choque, là, dans le montant de la prime. Parce que moi, 80 000 euros par médecin, je trouve ça complètement choquant, en fait. Donc, au bout d'un moment, les médecins...
C'est sur 2 ans. On peut aller rechercher des indus jusqu'à 2 ans. Donc, moi, j'en déduis que c'est 80 000 sur 2 ans.
Ouais, allez-y.
Ouais, c'est énorme. C'est énorme. L'hôpital, il est malade. D'accord? Les médecins, ils savent faire qu'une chose, c'est faire monter les enchères. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Je sais comment ça se passe. Nous, pauvres petits soignants, infirmiers ou aides-soignants, on est à 2300 euros net par mois. Et eux font monter les enchères. Vous trouvez pas ça aberrant?
Mais non. Bah non.
Non, dans l'hôpital public, vous trouvez pas ça aberrant?
Mais il faut monter les enchères parce que ce qui est aberrant, c'est que l'État a créé des déserts médicaux. Si l'État, dans la façon dont ils orientent les médecins, enfin en tout cas les études, dans la façon dont ils construisent le parcours académique des médecins, etc., ne créait pas des déserts médicaux, ben il y aurait pas d'enchères. Donc il y a un moment quand l'État, je vais pas taper sur les médecins pendant que l'État fait n'importe quoi. Donc je suis désolée. Moi j'aimerais que les infirmiers soient mieux payés et je crois que vous méritez d'être mieux payés, mais on va pas demander aux médecins de baisser leurs compétences et de faire jouer la loi du marché parce que l'État est incapable d'organiser le territoire national et qu'il y ait des médecins partout.
Nicolas,
oui, mais Joël, quand on veut gagner un peu plus d'argent dans la santé, il y a des moyens de le faire. Vous voulez gagner plus d'argent, vous vous mettez à votre compte, vous devenez libéral. Vous avez envie de gagner plus d'argent à l'hôpital, vous allez en clinique. L'hôpital public, c'est pas ça la mission. C'est pas de gagner. Alors, on doit gagner sa vie, mais c'est pas des sommes aberrantes comme ça. La différence entre un soignant comme moi, infirmier et un médecin, elle est x10, quoi.
Oui, mais vous voyez, Nicolas, moi, je pense que, si je puis me permettre, vous trompez de débat. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas rogner le salaire des médecins, parce que c'est lui, finalement, qui a droit de vie ou de mort dans son traitement sur vous. C'est lui qui décide de quelle pathologie vous avez. Ensuite, vous, l'infirmier, vous appliquez le traitement et vous faites les soins que le médecin aura décidé. Moi, je suis pas contre le fait, même à l'hôpital.
C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Oui, si vous voulez, mais vous venez en complément de ce qu'aura décidé quand même le médecin. Il reste le boss. Moi, ce que je pense, c'est que vous devez être mieux payé. Je suis d'accord. Voyez, Nicolas, je suis d'accord pour que vous soyez mieux payé que l'infirmier libéral qui fait la tournée et j'en vois, moi, qui viennent aider notamment mon père.
À 2,45 €.
Voilà. Je pense que vous devez, avec les heures que vous faites, avec les soins que vous donnez, avec parfois les toilettes que vous faites, vous devez mieux gagner votre vie.
On est bien d'accord.
Voilà. Mais je ne veux pas pour autant, si vous voulez, que vous disiez, lui, il gagne trop. Vous devez mieux gagner. Et moi, s'il y a un médecin, même dans l'hôpital public, qui gagne très bien sa vie, au-delà de 10 ou 15 000 euros, ça ne me pose aucun problème. Parce qu'il règne sur un service. Et comme le disait Joël, quand on arrive dans ce service,
c'est la loi du
veux être prise en main, je veux être bien soignée et je veux que les soignants soient heureux quand ils arrivent, qu'ils soient pas fatigués, qu'ils gagnent bien leur vie, parce que vous avez droit de vie, entre guillemets, droit de vie ou de mort sur moi. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, Nicolas, là-dessus?
Je suis en partie d'accord. Après, les choses sont un peu plus compliquées. Il n'y a pas d'histoire de médecin, c'est boss et le paramédical applique. On a des compétences propres, on est là aussi, on peut aussi nous prescrire des certains soins. Donc le travail avec un docteur, c'est un tandem, c'est un duo.
Oui,
il y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. En revanche, au niveau de la rémunération, enfin moi j'ai vu des choses hallucinantes. C'est exagéré.
Mais on les a vus aussi, même dans l'hôpital public où le médecin vous l'appelait et vous lui dites, enfin c'est plutôt lui qui vous dit consultation publique ou consultation privée. Puis oui. Consultation publique, oui. Vous attendez trois semaines ou un mois et consultation privée, vous avez rendez-vous dans 48 heures et vous payez beaucoup plus.
Je vais vous la faire courte en tant que patient. J'ai été confronté moi une fois à cette même chose où j'ai payé mon médecin sur le lit d'hôpital en consultation privée. Avant d'être opéré, je l'ai payé dans une enveloppe.
Oui, ça c'est
vrai. Vous trouvez
aussi.
Ça normal?
Ah non, je suis d'accord que c'est pas normal dans ces cas-là.
C'est quand même la conséquence d'un marché. Et ce marché, il est tendu et il est en faveur de ceux qui sont le plus rares, c'est-à-dire les médecins. Voilà, c'est tout simple. Les oranges et l'or, ça vaut pas le même prix, quoi. Parce que l'or, ça pousse pas dans les arbres. Voilà.
Merci Nicolas.
Ça va se corriger avec beaucoup de jeunes médecins qui arrivent là. Ils ont enfin libéralisé le numerus clausus.
Le numerus clausus, mais non, c'est des conneries. Il y a plus de numerus clausus, mais les crémages à la fin de la première année de médecine, c'est toujours le même.
Non, le nombre d'internes a été quasiment doublé par deux sur les dernières années.
J'en ai parlé notamment il y a quelques jours avec un jeune médecin. Il nous a allé voir. Il y a plein de jeunes médecins.
Dans quelques années, on verra la démographie médicale changer très nettement.
Le tout, c'est de savoir la répartition.
Des hôpitaux dans nos campagnes. J'ai un doute.
Justement, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette affaire? Est-ce que c'est honteux ou pas? Les médecins qui doivent rembourser. Vous dites totalement à 53,8, pas du tout à 46,2%.
Partagé.
En fait, ça s'est partagé. C'est le montant des primes, je pense, l'importance des primes. Peut-être comme Nicolas. Qui doit choquer un peu. Allez, dans un instant, on va ouvrir un autre dossier, le dossier Bali Bagayoko. Vous savez, l'histoire de l'emploi prétendument fictif à la RATP, LFI qui fait bloc autour de Bali Bagayoko, qui enlève toutes les critiques. Bali Bagayoko qui se filme lui-même en train de faire de la muscu et de dire « je tiens bon ». Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'ils en font trop? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Avec les sujets, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Joël Dagosséry, avec Didier Giraud, avec Antoine Diop.
On sera rejoint par un ancien flic de la police judiciaire tout à l'heure à 11h, Jean-Pierre Colombias. Il fait partie de ces policiers, alors il n'est plus en activité, mais comme il dit lui-même, quand on a été flic pendant autant d'années à la police judiciaire, on reste flic. Il fait partie de ces policiers qui sont remontés, mais comme des pendules, contre Gérald Darmanin.
Il y a de quoi ?
Après sa sortie. Gérald Darmanin qui a été ministre de l'Intérieur, après sa sortie, vous savez, sur les stocks fantômes, sur les plaintes, sur les violences sexuelles. Et Gérald Darmanin dit c'est les policiers qui ne font pas le boulot. Je peux vous dire qu'il est en colère et il sera avec nous, Jean-Pierre Colombias, tout à l'heure à 11h. On pourra en débattre, discuter avec lui, avec Joël, avec Antoine et avec Didier Giraud. En attendant, on va continuer de regarder le dossier Bali Bagayoko, la France insoumise et le fameux emploi à la RATP. Alors, il faut rappeler rapidement, pour ceux qui n'ont pas la totalité du feuilleton, que c'est le Canard Enchaîné la semaine dernière qui a sorti l'article qui s'appelle « Le ticket gagnant de Bali Bagayoko », où il affirme qu'avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, il a accumulé emploi, mandat local et poste de cadre à la RATP, qu'il y a eu un recrutement sans concours ni entretien, avec des horaires élastiques, des généreuses indemnités. Et quand il a perdu son mandat de départemental, le conseil municipal de la ville, qui était dirigé par les communistes, sa famille politique, lui a accordé une hausse des indemnités d'adjointe, 102%. Bref, il y a du coup l'association AC anticorruption a saisi le parquet national financier, déposé plainte. On verra si le parquet national financier s'en saisit. Du côté de Bali Bagayoko, voilà comment le maire de Saint-Denis réagit sur les réseaux sociaux. Il fait de la muscu. on le voit, il lève une pierre, il se maintient en forme et il écrit « Moi, lorsque j'apprends un dépôt de plainte pour emploi fictif et détournement de fonds, qui est engagé contre moi, cap vers 2027 pour la victoire. » Il est aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il va être un rouage important hein, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, toute cette histoire prend une autre tournure quand Manuel Bompard, qui est le coordinateur de la France Insoumise, publie sur les réseaux sociaux un SMS envoyé par le journaliste Frédéric Aziza, qui écrit dans le SMS, journaliste du Canard Enchaîné, on va revenir sur l'enquête sur le paquet Bagayoko. Que vous inspire la plainte? Qu'avez-vous à y répondre? Est-ce qu'il doit se mettre en marge de la vie politique? Peut-il participer à la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Et du côté de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon notamment et de Manuel Bompard, on dit bah, tout est clair. On comprend maintenant pourquoi il y a un acharnement contre nous et contre Bali Bagayoko. C'est parce que c'est Frédéric Aziza qui est aussi journaliste à Radio J, vous savez qu'il y a une radio de la communauté juive. Et donc, boum! On repart dans le match communauté juive contre LFI qui est accusé d'antisémitisme. Alors dans cette histoire, est-ce que on oublie le principal, c'est de savoir juste si Monsieur Bagayoko a eu un emploi fictif ou pas. Mmh. Et ça, c'est la justice qui devra le démontrer. Mais à aucun moment, la France Insoumise ne répond sur le fond. On renvoie toujours sur attaque injustifiée. Vous dites ça parce que c'est le maire de Saint-Denis. Vous dites ça aussi parce qu'il est noir, etc., etc. Qu'est-ce que tu en dis, Joël?
Quand Bali Bagayoko a été élu et que sur beaucoup de plateaux, on nous expliquait que c'était uniquement pour sa couleur de peau, parce que il représentait, entre guillemets, la composition démographique.
Ça joue aussi.
De sa ville. Moi vraiment je me suis insurgée parce que je trouvais que on respectait pas, et moi je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le travail, le fait qu'on pas seulement qu'on se fasse par soi-même mais qu'on bosse et que ça prenne des années à arriver à un tel niveau, et donc j'ai beaucoup argumenté en expliquant que on devait respecter le parcours de ce monsieur, qu'on devait respecter le fait qu'il ait travaillé, notamment qu'il était cadre, aussi élu pendant des années, et que c'est une suite entre guillemets logique au bout de 20 ans de militantisme, d'élections, aussi de travail dans le privé ou dans le semi-public, etc., qu'on arrive, à un moment à être maire. Je veux dire, c'est un travail, un parcours assez logique. Maintenant, si c'est vrai, effectivement, que monsieur Bali Bagayoko ne travaillait pas réellement, je peux te dire que, pour moi, c'est vraiment un enfumage et une grosse trahison.
Et l'enquête va falloir
que si c'est vrai. Non, mais moi, je vais m'excuser. Moi, les éléments qu'on me donnait, c'était, voilà le parcours de monsieur Bali Bagayoko. Voilà. Si ce parcours, est fictif, en partie, parce qu'il a été vraiment élu, j'imagine, quand même. En tout cas, dans la partie, je dirais, cadre, employé, etc., au sein de la RATP. Alors là, je peux vous dire que, enfin, peut-être qu'il aura ses soutiens au sein des LFI, parce que ils sont comme, ce sont des gens qui sont presque sectarisés pour moi. Enfin, je veux dire, ils ont une mentalité de secte, que ce soit d'ailleurs à l'extrême droite, des fois, ou à l'extrême gauche. Donc, tu peux leur opposer, des arguments factuels, et même qui remettent en cause leur idéologie, c'est-à-dire le fait, réellement d'être un travailleur, etc., machin, et ils vont quand même te trouver que, ah ben non, c'est du complot, etc. La question, c'est, t'as taffé ou t'as pas taffé? Je veux dire, est-ce que t'as travaillé? Si t'as pas travaillé et que t'as été payé, je suis désolée, t'es un gros mytho, t'es un gros menteur, t'es un arnaqueur. Voilà. Donc, l'enquête, elle devra prouver ça. Tout le reste, c'est Aziza, c'est machin, c'est Canard Enchaîné. Ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce que je valorise, c'est le parcours des gens. Ce que je valorise, et d'ailleurs, surtout les parcours issus de l'immigration, je les valorise énormément. Donc, je valorise le parcours des gens. Donc, si t'as pas taffé et que t'as été payé, je sais pas, des milliers d'euros, eh ben, déjà, tu rembourses, d'accord? J'espère que la justice va te condamner. Et, en gros, t'es un arnaqueur. Parce que tout ce que tu me vends, et tout ce que toi t'as vendu et tout ce à quoi les gens, d'ailleurs comme moi, qui sont issus du même département que Monsieur Bali Bagayoko, s'accrochent pour dire, tu vois, c'est possible, et puis tu vois, c'est bien, il a taffé et tout, même si je partage pas les idées, eh ben, je suis désolée, pour moi, c'est une trahison. Donc, la question, c'est celle-là, c'est t'as taffé, t'as pas taffé, c'est tout.
Antoine, Didier.
Ouais, mais du coup, moi, ce que j'écoute dans la voix de Joël, c'est aussi la déception de ceux qui ont cru. Moi, je suis pas déçu, hein.
Bah, attends, il y a rien pour le moment.
Bakayoko, c'était une construction du parti. Voilà. J'ai toujours cru ça, moi. Après, derrière ça, ça sera prouvé, ça sera pas prouvé. Ce qui est sûr, c'est que dans la réponse de Mélenchon, aujourd'hui, cette façon de faire de la politique, je crois que ça emmènera les électeurs de 2027 au Rassemblement National ou à la pêche. Voilà. Et les deux gros partis, ça sera le Rassemblement National et l'abstention. Voilà. Voilà. Et cette façon de faire de la politique en disant, ouais, mais tout ça, c'est le complot des judéo-maçonniques, là. Et ben, à un moment donné, je pense que le PK moyen, il en a rien à foutre de leur cirque. Et cette façon de faire de la politique en faisant le buzz, en se filmant, en train de faire de la musculation, mais ça gonfle les gens. Ça les gonfle, quoi. Mais c'est pas ça qu'ils attendent d'un politique.
Non, c'est pas sûr. C'est tu entretiens aussi ta communauté, mais... tes supporters,
oui, c'est ça,
ta base. Et tu leur dis, regardez,
quand je disais, il y a deux mois et demi, Bakayoko, c'est une construction du parti. Bah, on y est.
Antoine,
moi, je pense à Charles Pasqua. Quand tu fais face à une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire, Alain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de créer l'affaire dans l'affaire.
Aziza, maintenant.
En sous-entendant que Aziza le ferait pour de mauvaises raisons. Moi, je pense que on assiste, et Joël, tu l'as dit avec des mots très justes et très forts, on assiste, en fait, à des fissures dans l'idole qu'ils étaient en train de nous créer. Ils avaient tenté de nous créer le petit mec du 9-3 qui
a travaillé. Il n'y a rien pour le moment, faut le rappeler.
On assiste à des fissures. Mais au moins, on assiste sur plusieurs choses. On constate plusieurs choses. C'est que il a été nommé à la RATP. Et il y a plusieurs personnes qui expliquent qu'ils cherchaient un représentant du 9-3, qui cherchaient de la diversité, etc. Et donc, il y a personne qui dit qu'il a été nommé pour ses compétences, du moins jusqu'à présent. Et moi, je pense qu'il y a un truc très simple à faire. C'est ce que on demande toujours aux politiques. C'est prouvez-nous que vous avez travaillé. Souvenez-vous, Pénélope Fillon, etc. Monsieur Bakayoko nous sorte tous ces dossiers et nous dise, regardez, et je travaillais de 8h à 19h, etc.
À suivre. Et on peut faire confiance aussi au Canard Enchaîné. Vous allez voir, ça va être le feuilleton. Ça va être le feuilleton de l'été. Dans un instant, on revient sur l'affaire Darmanin, la colère des policiers, avec un ancien flic de la police judiciaire très remonté.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.